Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, édition spéciale élection régionale.
Vincent Parisot.
Bonjour à tous, oui, une édition spéciale, élections régionales et départementales jusqu'à 13h. On va faire un point complet sur ce scrutin qui concerne 48 millions d'électeurs. Scrutin qui va permettre de désigner les exécutifs des 13 régions de la métropole et des 4 d'outre-mer, ainsi que ceux de 95 départements. Scrutin qui a aussi, qu'on le veuille ou non, une portée nationale à un an des élections présidentielles. Pour certains même, ce sera un laboratoire avant la présidentielle. Pour d'autres, quasiment une primaire. Alors on va vous détailler tous les points chauds, les régions à surveiller de près. Avec nous Christelle Craplet, bonsoir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études chez BVA. Évidemment, on va commenter ces élections régionales et départementales avec vous. On ira dans un bureau de vote de Caen pour voir comment ça se passe, mais aussi au Touquet, évidemment, où le président et son épouse doivent voter dans les prochaines minutes. On ira aussi en Provence, à la Côte d'Azur, où il y a eu un sérieux retard à l'allumage ce matin, et puis on va tirer les premiers enseignements de la participation à midi. Elle est de 12,22%. C'est 4 points de moins que lors des régionales de décembre 2015. C'est le premier élément important de cette journée. 12,22%. Donc une participation moindre que lors des dernières élections régionales, mais à la mi-journée, évidemment. On y reviendra dans quelques minutes. L'actualité est également dominée par les intempéries. On sera avec le sous-préfet de Chinon en Indre-et-Loire, département fortement touché, notamment à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. C'est aussi en ce dimanche la veillée d'armes des lycéens. À partir de demain, le grand oral du bac. Et puis une actualité sportive importante ce dimanche. L'Euro, bien sûr, la France et le Portugal doivent digérer leur contre-performance d'hier avant de s'affronter mercredi. Et puis on ira au Castellet pour le Grand Prix de France de Formule 1. Allez, tout de suite, direction le ministère de l'Intérieur. C'est la première information importante de ce jour de vote, de ce jour de scrutin à élections régionales et départementales. C'est la participation à midi. Alice Moreno, vous êtes au ministère de l'Intérieur.
Oui, ce taux de participation qui s'établit à 12,22%, c'est 4 points de moins que lors des dernières régionales en 2015. Le taux de participation s'élevait alors à un peu plus de 16% à la même heure. Les électeurs corses sont ceux qui se sont le plus déplacés aux urnes ce matin, avec 22,5% de votants, suivi de l'Occitanie et de la région PACA à plus de 14% toutes les deux. En revanche, c'est en Île-de-France que l'abstention est la plus forte, avec seulement 8,47% de participation dans la région. Alors je vous égrène le reste des chiffres de participation pour les différentes régions. 10,33% dans le Grand Est, 13,58% en Nouvelle-Aquitaine, 12,71% pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, 13,87% en Bourgogne-Franche-Comté, 11,47% en Bretagne, 12,50% dans les Hauts-de-France, 11,97% en Normandie, 12,28% pour les Pays de la Loire. Pour plus de lisibilité, seuls les chiffres des régionales sont comptabilisés aujourd'hui, avec donc cette faible participation à midi, 12,22% à l'issue d'une campagne marquée par la crise sanitaire.
Merci beaucoup Alice Moreno, en direct du ministère de l'Intérieur. Alors on va tout de suite analyser ce chiffre avec vous, Christelle Craplet. Je rappelle que vous êtes directrice d'études chez BVA. Que nous dit cette participation faible, semble-t-il, 12,22% à midi?
Oui, c'est une faible participation, c'est moins que lors des précédents scrutins. Ça a l'air même d'être moins qu'en 2010 et 2011, on a vu déjà un record d'abstention. Et ça semble confirmer ce qu'on observe régulièrement depuis une vingtaine d'années, à savoir une hausse de l'abstention très forte chez les Français, qui sont même s'être accélérée ces dernières années, et qui traduit plusieurs choses. Une forme de désintérêt peut-être pour ces scrutins qu'ils ne comprennent pas très bien, une forme de désenchantement, on ne trouve pas forcément les réponses, l'offre politique qu'on attend. Et puis il y a aussi évidemment des raisons conjoncturelles. La crise sanitaire, ce scrutin qui a été déplacé, qui a lieu fin juin, quand les Français ont peut-être autre chose à l'esprit. En tout cas, on semble, même s'il faut rester prudent, s'orienter vers une hausse de l'abstention.
Alors, une hausse de l'abstention en moyenne en France, il y a des régions où on vote plus que d'autres. On a visiblement, pour l'instant, assez peu voté en Île-de-France, par exemple, on le disait à l'instant.
Oui, tout à fait, les chiffres ont l'air inférieurs et c'est quelque chose qu'on avait déjà observé en 2015. Traditionnellement, les personnes en Île-de-France votent un peu moins qu'en moyenne. On va voir si ça se confirme au cours de la journée et si cette abstention génère, enfin, ces chiffres de participation là, qu'on nous annonce au global, si révèlent des différences fortes d'une région à l'autre avec un impact potentiel dans certaines régions.
Et en revanche, une participation plus importante que cette moyenne de 12,22 en Provence-Alpes-Côte d'Azur malgré un premier couac ce matin, puisqu'à Marseille, 34 bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir comme prévu à 8h faute d'assesseurs. C'est ça, Hugo Hamelin, vous êtes à Marseille pour RTL.
Ouais, plus qu'un bug, c'est un problème d'organisation hein, qui a eu lieu ce matin à Marseille. Les présidents de 34 bureaux de vote sur près de 900 ne se sont pas présentés à l'ouverture. Et forcément, il y avait un peu de colère pour les électeurs qui s'étaient levés tôt.
À 8h du matin, il n'y avait ni président ni assesseur. Le bureau n'a pas pu ouvrir. On nous a averti que le préfet réquisitionnait des agents des cabinets pour pouvoir les conduire via la police. Voilà.
Donc dans l'école où je me trouve, il devait y avoir un président et trois assesseurs. Il n'y avait qu'un assesseur présent ce matin. Des fonctionnaires ont donc été réquisitionnés à la hâte par le préfet pour pallier à ces absences. Les bureaux ont pu ouvrir avec parfois 2h30 de retard. Et les assesseurs ont été recrutés carrément dans la file d'attente des électeurs.
Donc hier soir, vous n'étiez pas au courant que vous alliez tenir un bureau de vote ?
Non, pas du tout. J'étais en train de voter dans le bureau d'à côté. Laurence, elle m'a dit « j'ai besoin de toi », je suis venue. Laurence est à tata de l'école. Et comme j'ai l'habitude de tenir les bureaux de vote et que personne n'a tenu le bureau ici, donc je me suis permise de m'incruster dans le lot, voilà.
Voilà, des assesseurs qui s'incrustent dans les bureaux de vote. Un bug dénoncé par de nombreux candidats ce matin ici à Marseille. À qui va profiter cette abstention conjoncturelle, on va dire ? Réponse ce soir.
Eh bien évidemment, Hugo Hamelin, d'ailleurs on vous retrouvera tout à l'heure à la fin de cette édition spéciale, juste avant 13h, pour faire un point sur cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur que tout le monde regarde évidemment de très près. Alors comment se déroule ce vote ? 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, d'ailleurs deux enveloppes, hein, une pour les régionales, une pour les départementales. Et sur le plan sanitaire, donc un processus très strict. On va le voir dans un bureau de vote de Caen avec vous, Esteban Pinel, avec, je crois, chez vous, un sursaut de participation, en tout cas dans votre bureau. Hein.
Ouais, il y avait encore une file d'attente il y a peu devant l'entrée de l'abbaye aux hommes. On s'est un peu pressé d'aller voter avant le déjeuner. La vingtaine d'assesseurs du bureau a plutôt le sourire. Alors déjà parce que le scrutin très encadré par le protocole sanitaire se passe bien. Ensuite parce qu'on recense un peu plus de 15% de participation. Alors c'est rien de transcendant, hein, mais ça aurait pu être pire, nous dit-on. À 11h, on oscillait entre 9 et 9,5% sur la ville. Notons aussi que l'on vote un peu plus pour les régionales que pour les départementales, semble-t-il. Plusieurs électeurs croisés ici ont redit l'importance d'exprimer leur voix pour des sujets concernant transport, lycée, économie du territoire. Cet après-midi, par contre, le scrutin pourrait être concurrencé par le beau temps, alors que la côte, qui est seulement à une quinzaine de kilomètres, enregistre une fréquentation record les week-ends en ce moment, et que le soleil, justement, se lève en ce moment sur Caen.
Eh bien, profitez-en du soleil. Merci beaucoup, Esteban Pinel. Il était prévu qu'on file maintenant du côté du Touquet, mais on va patienter parce qu'on attend le président. Voilà, le président devait arriver dans son bureau de vote du Touquet à midi avec son épouse. Il est 12h38. Vous l'avez compris, il a un peu de retard. Alors nous, on va marquer une page de pub. Et puis dans un instant, dérouler l'essentiel de l'actualité avant de revenir à cette actualité politique des élections régionales et départementales. Je vous rappelle l'information dont on dispose depuis midi, la participation. 12,22%, c'est tout de même 4 points de moins qu'en 2015. A tout de suite.
Vincent Parisot,
RTL Midi, spécial élection régionale.
RTL Midi,
Vincent Parisot.
Outre ce scrutin des élections régionales et départementales sur lequel évidemment on va revenir dans quelques minutes, l'actualité de ce dimanche, eh bien, elle nous vient encore du ciel avec ces intempéries, ces orages. Ils ont frappé hier de nombreuses régions, vous le savez. Par exemple, en région parisienne, il y a des dégâts du côté d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Mais dès hier, on vous parlait de cette tornade qui avait frappé la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil en Indre-et-Loire. Et nous sommes avec le sous-préfet de Chinon, Laurent Vigneault. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez pu faire l'inventaire sur l'étendue des dégâts dans le secteur ? Est-ce que ça concerne seulement Saint-Nicolas-de-Bourgueil ?
Non, ça concerne d'autres villages autour, au sud et au nord de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Trois, quatre communes autour de Saint-Nicolas qui ont été très impactées par le passage de la tornade.
Vous confirmez qu'il n'y a pas de blessés à déplorer ?
Pas de blessés, ni heureusement, ni de décédés, encore moins.
En revanche, j'imagine qu'il y a des personnes à reloger, parce qu'on a vu les images avec des toits qui se sont alors ou effondrés ou envolés.
Oui, alors il y a eu effectivement des personnes qui ont dû être relogées, mais elles ont pu être relogées par de la famille ou par des amis, et donc là, il n'y a pas eu de relogement officiel par la commune.
Quels sont les principaux dégâts ? On entendait ce matin le maire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, évidemment se désoler de la situation de l'église, mais pas seulement d'ailleurs.
Oui, alors l'église, effectivement, est l'élément le plus symbolique qui était vraiment le plus touché dans la commune, mais sa salle polyvalente, l'école, la mairie, et puis tous les bâtiments autour de l'église ont été très très impactés, et même des maisons individuelles et des chais de viticulteurs dans la commune ont été très touchés sur le passage de la tornade.
Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à faire ? Quelles sont vos possibilités, vous, pour aider ces victimes ? Je ne parle pas du vignoble, on va en parler dans un instant, mais de ces personnes qui sont touchés, notamment au niveau de leur habitation.
Alors, les interventions les plus urgentes ont été déjà faites depuis hier, avec des bâchages d'urgence, des sécurisations de toiture, et c'est encore le cas aujourd'hui, ce matin. Les pompiers sont à l'œuvre, là, au moment où je vous parle, pour sécuriser l'église et enlever les pierres et les débris qui menacent de tomber, pour pouvoir après passer à la suite et envisager un bâchage à plus long terme.
Quand on parle de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, évidemment, on pense au vin. Quels sont les dégâts ? Est-ce qu'ils sont déjà évalués, les dégâts sur le vignoble ?
Alors, les dégâts sur les vignes en elles-mêmes ne sont pas encore évalués, puisque les viticulteurs ont été touchés d'abord sur leur chai hier après-midi, notamment la coopérative de Bourgueil a été très touchée. Donc les dégâts sur les vignes ne sont pas encore établis.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurent Vignon. Je rappelle que vous êtes sous-préfet de Chinon, en Indre-et-Loire, et avec cette commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, qui a été particulièrement impactée par cette tornade qui est passée sur la commune hier, et vous le disiez, qui a touché également plusieurs villages alentours. Merci beaucoup. Prudence, en tout cas, les orages vont continuer, semble-t-il, Valérie Quintin.
Oui, on n'en a pas terminé encore avec les orages. La ligne de circulation orageuse cet après-midi ira de l'est des Pyrénées jusqu'à l'Alsace, en passant par le Massif central, la région Rhône-Alpes, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. Alors bien sûr, il est très difficile de dire à l'avance où ces orages seront les plus forts, assortis de brusques rafales de vent, voire de chutes de grêle. En principe, les régions centrales et les régions de l'Ouest seront un petit peu plus épargnées. Bien sûr, il y aura quelques averses orageuses, mais rien de comparable avec ce qui s'est passé hier, puisque c'est précisément dans l'Est que ça risque de taper fort cet après-midi et la nuit prochaine également. Au final, les régions méditerranéennes vont garder un brin de soleil, de même que les Hauts-de-France, mais par là-haut, ce sera surtout entrecoupé de quelques averses. Côté température, on ne change pas, on reste avec des valeurs assez élevées quand même, une fourchette de 17 à 35 degrés cet après-midi de Cherbourg jusqu'à Ajaccio.
Merci beaucoup Valérie Quintin, soyez donc quand même très prudents. Alors l'actualité, c'est aussi pour tous les élèves de terminale, la veillée d'armes pour le grand oral du bac. Oui, c'est une épreuve inédite, c'est une première à partir de demain et jusqu'au vendredi 2 juillet pour ceux qui passeront en dernier devant leur jury. Pour ces candidats au bac, il va falloir gérer les émotions, ajuster la voix. Évidemment, les élèves ont été entraînés, et comme par exemple dans ce lycée de Versailles où Léopold a pu bénéficier des conseils de l'intervenant des cours de théâtre. Écoutez Léopold.
Des conseils sur la respiration, sur comment être à l'aise, comment ne pas trop stresser, être détendu et avoir une bonne diction. Avoir tout ce qui est des bras, des épaules, etc., tout ça détendu pour qu'on ne dégage pas trop une image de quelqu'un de stressé, trop stressé, et que ça nous libère nous-mêmes, que ça libère un peu notre parole. Bien respirer avant, prendre de grandes inspirations et bien expirer pour nous libérer toute la cage thoracique. Ne pas parler trop vite et donc bien articuler. Et à partir du moment où on a pris l'habitude, dès qu'on parle à l'oral, de faire attention à ça. Je pense que le grand oral, ça devrait bien se passer.
Voilà, ça devrait bien se passer. Le grand oral, dit Léopold, c'est en tout cas ce qu'on souhaite à tous les élèves de terminale qui vont donc, d'une certaine manière, quand même essuyer les plâtres. Hein. C'est une épreuve inédite que ce grand oral qui commence donc à partir de demain et qui va durer jusqu'au vendredi 2 juillet. Alors l'actualité de ce dimanche, elle est aussi sportive avec le Grand Prix de Formule 1 sur le circuit du Castellet. Vous y êtes pour RTL, Frédéric Veil.
Oui, quel plaisir surtout de voir du public dans les tribunes du circuit Paul Ricard. 15 000 spectateurs en majorité français vont avoir le privilège d'assister au Grand Prix de France cet après-midi. 15 000, c'est loin des 75 000 que peut accueillir cette enceinte sportive, mais c'est par ces temps de pandémie inespéré. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont supporter haut et fort nos deux Français, Esteban Ocon et son Alpine qui partiront tout à l'heure en 11e place sur la grille, mais surtout Pierre Gasly, encore impressionnant hier lors des qualifications avec ce 6e temps obtenu au volant de son AlphaTauri. On le sent, hein, Pierre Gasly a depuis sa victoire à Monza l'an passé franchi un cap et son podium il y a 15 jours à Bakou font du jeune Normand la nouvelle coqueluche de la Formule 1. Ça se vérifie ici au Castellet où tout le monde parle de Pierre Gasly, de son avenir qui pourrait bien se dessiner dans une écurie de top niveau. Ce qui est sûr, c'est que lui va tout donner cet après-midi. Départ du Grand Prix de France à 15h. C'est, on le rappelle, le Néerlandais Max Verstappen qui s'élancera en tête au volant de sa Red Bull Honda juste devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. On attend du grand spectacle ici dans le Var.
Merci beaucoup Frédéric Veil, c'est vous qui allez vivre et suivre ce Grand Prix de France pour RTL. Je vous rappelle qu'également qu'à une semaine du départ du Tour de France, eh bien le championnat de France de cyclisme se dispute aujourd'hui à Épinal. Et puis, puisqu'on parlait de sport mécanique avec la Formule 1, sachez qu'il y a aussi au programme aujourd'hui le Grand Prix moto d'Allemagne avec les deux Français Zarco et Quartararo qui seront aux deux premières places pour le départ qui sera donné à 14h.
L'Euro sur RTL.
Et oui, parce que le sport, c'est aussi l'Euro de football, évidemment. Deux matchs aujourd'hui au programme, deux rencontres à suivre à 18h. Suisse-Turquie et Italie-Pays de Galles. Et alors, pour les Français, qui, vous le savez évidemment, ont concédé le match nul un partout hier face à la Hongrie, et pour les Portugais, qui ont été battus par l'Allemagne 4-2, eh bien, le nouveau et dernier rendez-vous dans la phase de groupe, ce sera mercredi, avec ce Portugal-France qui promet. Et d'ailleurs, je crois qu'on a déjà une petite idée de la température avec une supportrice du Portugal. Elle s'appelle Sandra et elle va vous démontrer par A plus B pourquoi ce sont les Portugais qui vont gagner.
Parce qu'ils sont bons, ils ont un bon gardien aussi, j'aime bien. Après, ça ne sera pas facile, ça sera même compliqué, je pense. Parce que la France est une très bonne équipe, ils ont un très bon jeu. Puis ils se connaissent bien, donc ils connaissent les jeux les uns des autres et ça va être compliqué. Mais moi, j'espère que le Portugal gagne. Parce que j'adore le foot et parce que c'est dans ma culture déjà. J'ai grandi avec le foot. Mon père était gardien de but au Portugal dans une toute petite équipe. Donc voilà, ça fait partie de moi. Et que je suis pour la France, sauf quand il y a le Portugal. C'est quelque chose qui nous fait, chez nous, là-bas, vibrer. Moi, je dirais, en n'étant pas du tout objective, je dirais 2-1 pour le Portugal. On est ensemble, on crie ensemble, on insulte l'arbitre ensemble, c'est génial. Ah oui, je serai là avec les compatriotes, devant la télé, bien sûr.
Ah, ça promet, hein, effectivement, comme Sandra qui était au micro RTL de Nicolas Burnin, ça promet cette soirée de mercredi et ce match Portugal-France. Il y aura de l'ambiance mercredi soir. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Mais on va évidemment revenir sur ce qui est l'information principale, ce scrutin des élections régionales et départementales. Tiens, on va retourner au ministère de l'Intérieur pour vous rappeler la participation. Et puis on ira en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région dont on parle beaucoup. À tout de suite.
RTL Midi, édition spéciale élection régionale.
Vincent Parisot.
RTL Midi, édition spéciale élection régionale.
Vincent Parisot.
Suite et fin de cette édition spéciale consacrée à ces élections régionales et départementales à la mi-journée. Alors, tout d'abord, on revient sur l'information, j'allais dire la seule information pour l'instant d'ailleurs, dont on dispose, c'est la participation à midi. Vous nous la rappelez, Alice Moreno, vous êtes au ministère de l'Intérieur.
Oui, alors pour rappel, le taux de participation à la mi-journée s'établit à 12,22%. C'est 4 points de moins que le taux de participation lors des dernières élections régionales en 2016. Il s'établissait à un petit peu plus de 16%. Ce sont les électeurs corses qui se sont le plus déplacés ce matin avec un taux de participation de 22,5%. Suivent ensuite les régions Occitanie et PACA à plus de 14%. Viennent la Bourgogne-Franche-Comté, la Nouvelle-Aquitaine et le Centre-Val-de-Loire avec un peu plus de 13% de taux de participation. Pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire, on est un petit peu au-dessus de 12% de participation. La Normandie, la Bretagne et le Grand Est sont entre 10% et 12% de taux de participation. Et puis, c'est l'Île-de-France qui arrive bonne dernière avec seulement 8,47% de taux de participation. Je vous rappelle donc que 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes jusqu'à ce soir, 18, 19 ou 20 heures, en fonction des communes.
Merci beaucoup, Alice Moreno, en direct du ministère de l'Intérieur. Alice, qui nous annonçait la participation à la mi-journée, à midi, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus de 14%, donc on est au-dessus de la moyenne nationale, et cela malgré cet incident dont on vous parlait dès le début de cette édition spéciale, avec ces bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. Il y a eu du retard, on a trouvé des assesseurs comme on pouvait, on en a parlé tout à l'heure dans le journal. Mais justement, on vous retrouve quand même, Hugo Hamelin, pour parler des enjeux et de cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est vraiment un point chaud de ce scrutin, Hugo.
Oui, c'est sûr. Alors après, le bug, il est intervenu sur certains bureaux de vote marseillais. Il ne devrait pas y avoir une incidence flagrante sur les résultats de la région PACA, puisque c'était une trentaine de bureaux de vote qui ont ouvert avec environ 2 heures de retard ce matin sur les 900 que compte Marseille. Donc c'est très petit déjà, enfin ça représente moins de 10% à l'échelle de la ville, donc vous imaginez à l'échelle de la région, une région PACA où la campagne a été animée, elle a été ponctuée de plusieurs rebondissements. Ce qu'on peut dire ce midi, c'est que les électeurs se sont moins déplacés qu'en 2015, 14,46% de participation à midi pour la région PACA, vous le disiez, c'est entre 3 et 5 points de moins selon les départements que lors du précédent scrutin des régionales. La plus forte baisse concerne le Var, une terre historique de la droite, avec peut-être des électeurs un peu perdus par cette campagne où des alliances se sont formées puis déformées. Voilà, on aura le résultat ce soir.
Merci beaucoup, Hugo Hamelin. Justement, c'est vrai, Christelle Craplet, je rappelle, vous êtes directrice d'études chez BVA. Arrêtons-nous sur cette région PACA. On dit que c'est vraiment le point chaud de ce scrutin. On voit que la participation est certes au-dessus de la moyenne nationale, mais moindre quand même que lors des dernières élections de 2015. Est-ce que les électeurs peuvent avoir été un peu perdus ou perturbés par ces alliances dont on a beaucoup parlé ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est assez compliqué. Les alliances ne sont pas toujours très lisibles et tout ça peut provoquer forcément une démobilisation ou au contraire, pour certains, une surmobilisation. Dans ce contexte d'une participation qui est quand même en recul, ça va vraiment être intéressant de voir qui potentiellement cela peut pénaliser, qui potentiellement cela peut favoriser et quel impact cela va avoir sur les résultats, notamment dans cette région PACA.
Alors, la région PACA, c'est une des régions dont on parle et dont on va beaucoup parler. Elle n'est pas la seule. Je disais, il y a aussi des régions avec un fort enjeu dans la perspective de l'élection présidentielle. Certains même parlent d'une quasi-primaire, que ce soit pour les Hauts-de-France ou pour l'Île-de-France. On peut quand même, sans aller trop loin dans ce qu'on dit, sans en dire trop, parler de ces deux régions. Par exemple, dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand, il a dit que pour lui, la victoire était indispensable s'il veut aller au bout de son ambition politique présidentielle.
C'est le dernier scrutin avant la présidentielle et effectivement on a des régions, les deux dont vous parliez, où on a des candidats à envergure nationale qui se sont prononcés comme potentiellement candidats à la présidentielle. Donc forcément leurs résultats ce soir seront particulièrement scrutés et pas seulement en termes d'impact local mais également en termes d'impact national et notamment dans le cadre de la future présidentielle.
Voilà, avec Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France mais aussi Valérie Pécresse en Ile-de-France. Alors il est en retard, il est souvent en retard, mais il arrive finalement avec une heure de retard. C'est ça, le président est en train d'arriver dans son bureau de vote du Touquet, Antoine Decarne.
Oui, le président de la République vient d'arriver ici au Palais des Congrès du Touquet. Il est accompagné de son épouse Brigitte Macron. Il est en train de saluer le maire LR de la ville, Daniel Fasquelle, ainsi que le préfet du Pas-de-Calais. Le président de la République est masqué, tout comme son épouse, habillé avec son costume, cravate. Il va ensuite se diriger à l'intérieur du bureau de vote numéro 3, le temps de grimper quelques marches. Il commencera par le vote pour les élections régionales, puis enchaînera par celui des élections départementales. Il sortira ensuite à l'arrière du bâtiment. Le président de la République, qui actuellement est en train de serrer quelques mains dans la foule, une petite centaine de Touquetois qui est venu saluer le président de la République. Il est ici chez lui, c'est le fief d'Emmanuel Macron et de son épouse. Le président de la République qui va voter dans quelques instants dans une région de France qui ne s'est pas encore déplacée jusqu'aux urnes dans toute la région. La participation est de 12,5%. C'était 19,1% à midi en 2015. 7 points de moins donc. Et le président de la République qui est toujours en train de saluer quelques Touquetois avant de se partir vers son bureau de vote.
Merci beaucoup Antoine Decarne pour ce vote d'Emmanuel Macron au Touquet. Voilà ce qu'on pouvait dire à 12h59. Je vous donne rendez-vous à 18h ce soir pour une nouvelle édition spéciale. Et puis, à partir de 19h, ce sera la soirée électorale avec Thomas Soto. Dans un instant, où va la France avec...